Ce matin, nous allons tourner à 2 Corinthiens chapitre 5 et nous allons voir les versets 14 à 21. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 à 21. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir le péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. On voit plusieurs choses dans ce passage. On parle premièrement de l'amour de Christ, l'amour de Dieu. Comme Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, pourquoi Dieu a agi? Ce n'est pas parce qu'il a de la haine pour nous. C'est vrai qu'il est en colère, mais qui nous aime et il a déversé son colère sur son propre Fils. Car l'amour de Christ nous presse, nous pousse à voir parce que nous estimons si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de distinction dans ce domaine-là. On est tous également pécheurs. Et Christ est mort une fois pour tous les péchés. Tous étaient morts. Christ est mort une seule fois pour tous. Ce n'est pas très calviniste, ça. Je ne sais pas ce qu'ils font avec ce verset. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. C'est-à-dire nous qui croyons en Jésus-Christ, nous ne devons plus vivre pour soi-même. Je ne devrais pas vivre pour le plaisir de Billy. Vous ne devez pas vivre pour le plaisir de vous. Nous devons avoir l'optique, je vis pour Dieu. J'appartiens à Dieu et mon objectif, c'est de servir Dieu, de servir aussi les autres. Ne plus vivre pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ma vie est à la disposition de mon Sauveur. Si je vis, si je meurs. Si c'est le bonheur ou le malheur. C'est un peu comme le mariage. Hein? Quoi que soit le futur, on appartient à Dieu. Et lui, il connaît toutes choses. Et lui, même quand on passe, comme le psaume a dit, à travers la vallée de l'ombre de la mort, il est là avec nous. Même dans les choses les plus difficiles. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous connaissons, nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Donc, on a des relations humaines avec tout le monde. Et il y a même eu, à l'époque, des gens qui ont eu des relations humaines avec Jésus-Christ. Ils l'ont connu comme un homme qui mangeait les poissons et qui dormait, etc. Mais c'est plus l'optique. Christ n'est plus ici, visiblement. Il est ici dans nos cœurs, mais il n'est pas ici visiblement. Et nous ne devons pas rester là-dessous. C'est ceux qui ont connu Jésus, personnellement. Il faut le voir d'une optique qu'il est notre Seigneur et Sauveur. Il est Dieu. Il est dans les lieux célestes. Et vis-à-vis des autres, nous avons des amis, mais il ne faut pas les voir comme des amis, mais comme les frères et sœurs en Christ. On doit voir les choses d'une optique spirituelle. C'est pas le... On va avoir notre assemblée générale et on va voter sur les choses et certaines personnes vont dire oui et d'autres vont dire non. Et ce n'est pas pour se faire des ennemis. Mais en frères et sœurs, on va voter les choses pour avoir une optique communale sur tel ou tel sujet. Vous voyez ce que je veux dire? On ne voit plus les choses comme les êtres humains, mais comme les frères et sœurs en Christ, celui qui est mort et ressuscité pour nous. Et donc, il est dit au verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Nous avons tous un passé. Je vais parler de ça un peu plus tard, ok? Mais je parcours un peu le passage avant d'aller plus en détail sur certains thèmes. On a tous nos péchés, on a tous notre passé, et ces choses-là sont disparues, couvertes entièrement en Jésus-Christ. La réalité de nos péchés reste. Pourtant, Christ est mort. Il les a effacés. Dieu ne les voit plus. Il est séparé comme l'Est de l'Ouest. Il ne nous condamne plus du tout. On a chanté tout à l'heure. Si le diable nous rappelle de notre passé, hein, pour nous tabasser avec notre passé, c'est le diable, ce n'est pas Dieu. C'est peut-être nous aussi. Hein. On a quand même une bonne mémoire pour certaines choses. Mais ce n'est pas Dieu qui vient nous condamner. Parce que Dieu les a oubliés. Pour Dieu, nous sommes une nouvelle création. Chacun de nous est une nouvelle personne en Jésus-Christ. Et donc, Dieu veut qu'on vit une nouvelle vie. Quand on se fait baptiser, on dit, comme témoignage devant les gens, que j'ai cru en Jésus-Christ, qu'il m'a sauvé, il est mort et ressuscité. Et maintenant, je compte vivre en nouveauté de vie. Je compte vivre une vie chrétienne au lieu de la vie qu'on avait auparavant. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Donc toute cette idée, l'évangile, le pardon, le passé oublié, la nouvelle vie en Christ, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, j'ai cette petite illustration. Quand on n'est pas réconcilié, quand on est en colère l'un avec l'autre, c'est comme deux personnes qui ne veulent plus parler. On ne peut plus se voir. Et puis, il y a un moment qu'il y a un qui s'humilie et qui se tourne vers l'autre et dit « Je te pardonne ». Et puis l'autre dit « Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Oui, oui, je te pardonne. Désolé, je te pardonne. » Et puis l'autre dit « Non, 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 non. » Et puis un jour, il dit « Bon, voilà, c'est personne quand même, etc. » Et donc, je me tourne aussi. Et donc, Dieu s'est réconcilié avec nous. Mais nous devons aussi accepter l'offre de pardon. Et comme ça, on est réconcilié et on communie ensemble. OK? Donc, c'est ça qu'il dit ici. Il nous a réconciliés, Dieu le Père nous a réconciliés avec lui-même par le Christ et qui nous qui ont été réconciliés, qui ont cru en Jésus-Christ, il nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc Dieu s'est réconcilié avec nous, nous nous sommes réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ et maintenant nous avons le ministère de la réconciliation envers les autres. Donc, une église qui n'est pas une église évangélisante n'est pas une église. Parce que l'évangile veut se faire proclamer. C'est la nature de l'Évangile. Il faut qu'on proclame l'Évangile d'une manière ou d'une autre, mais qu'on annonce l'Évangile. Et c'est ça, ce ministère de la réconciliation que Dieu nous a donné à nous tous, aux chrétiens, en général et individuellement. Donc au verset 19, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. » Il a fait. Il dit, « Il n'impute plus aux hommes leurs offenses. » En n'imputant point aux hommes leurs offenses. On a des offenses. On a tout un paquet, chacun d'entre nous. C'est vrai, n'est-ce pas? Hein? Mais Dieu ne compte plus contre nous nos offenses. Il nous a pardonné. Et en plus, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, cette réconciliation que nous avons reçue en Jésus-Christ ne doit pas rester silencieux en nous, mais ça doit s'exprimer. Parce que Dieu a mis en nous pas simplement la connaissance de l'Évangile, mais la parole de l'Évangile. Il veut qu'on parle. C'est bien de distribuer les traités. Pas de problème. J'aime bien distribuer les traités. Mais le jour vient qu'il faut dire quelque chose. Vous avez donné des traités, vous avez donné les livrets ou même des livres. Et puis un jour, quelqu'un va dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, il faut être prêt, hein? Parce que le jour vient quand les gens vont vous poser des questions. Et un ou deux Pierre, il dit qu'on doit être toujours prêt à répondre quand ces questions viennent. Donc, préparez-vous, ok? On est dans 2 Corinthiens chapitre 5 et au verset 20. Donc, il explique quelle est cette parole de la réconciliation à partir du verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, et donc le message, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. On est ambassadeur, on est représentant. En tant que représentant, on n'a pas un message à nous-mêmes. Nous représentons quelqu'un d'autre. Nous représentons le Seigneur Jésus, mort et ressuscité, voulant pardonner, aimant le pécheur afin de le sauver. Et nous amenons ce message envers les gens qui nous entourent, les gens que nous fréquentons, avec qui nous travaillons dans nos familles, dans nos foyers, etc. Même nos ennemis. Nous avons un ministère de réconciliation en tant que représentant du Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, voilà, nous vous en supplions au nom de Christ. C'est un peu émotionnel ce mot-là, de supplier quelqu'un. Ce n'est pas simplement une toute courte connaissance, mais c'est un désir ardent de vouloir persuader la personne. Pas le forcer, vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à croire. Mais vous pouvez désirer et même parler avec un peu d'énergie, sans, n'est-ce pas, aller jusqu'à devenir charnel dans l'explication des choses. Okay? Mais ça peut être émotionnel. On supplie au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. J'espère dans l'année 2018 que nous allons retenir cette idée, le ministère de réconciliation, l'ambassadeur, les fonctions d'ambassadeur, représenter Jésus-Christ dans le monde qui nous entoure. Alors j'ai plusieurs choses à dire maintenant. Donc, premièrement, dans le passage, on a parlé déjà de l'amour de Christ. On a parlé de cette vie nouvelle depuis le salut, mais encore plus dès maintenant. Parce que, comme Paul dit, les choses qu'il a déjà effectuées en tant qu'apôtre dans le passé, il dit, je les oublie. Mais je presse vers l'avant. OK? Donc, quoi qu'on a fait dans le passé, c'est bien. Ou c'est peut-être pas bien. Je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'on va faire dans l'avenir? Qu'est-ce qu'on va faire dès maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire dans l'année 2018? Ou en janvier? Ou en février? C'est ça la question. Hein, parce que c'est le message début d'année. Donc, il faut voir qu'on a toute une année, mais en toute une vie devant nous. Il y a le passé, mais il y a l'avenir. Il faut focaliser sur l'avenir. Non, c'est bien d'être sportif dans le passé, mais le futur n'est plus la même chose. On voit aussi la nature transitoire, temporaire de cette vie. On est là maintenant, mais on va mourir. Et on voit la nature permanente de la vie céleste. Dieu nous a promis non simplement un avenir sur la terre, mais un avenir éternel. Une vie éternelle. Une vie éternelle qui a commencé déjà depuis le moment que nous avons cru en Jésus-Christ et pour lequel donc on voudrait vivre pour celui qui nous a sauvés. Et on voit à la fin de cette paragraphe le mandat, ce que Dieu attend de nous être ses représentants, les ambassadeurs. Donc ces versets parlent d'une vie nouvelle. Et comme j'ai déjà mentionné, nous sommes aussi entrés dans une nouvelle année. Et je voudrais proposer certaines idées pour l'année 2018. J'aimerais vous encourager à fixer des nouveaux objectifs. Vous avez peut-être eu des objectifs pour l'année 2017. Maintenant, c'est 2018. Vous avez peut-être atteint, peut-être pas, vos objectifs pour 2017. Mais focalisez pour le court avenir. Oui, au long terme. Qu'est-ce que vous comptez pour le long terme? Mais focalisez un peu cette année qui est devant nous. Il y a un genre de plan pour les projets qui s'appelle le plan SMART, comme les téléphones, les smartphones. Le mot SMART veut dire intelligent. OK? S-M-A-R-T. Et donc, on utilise ce mot pour aider un peu à fixer des objectifs spécifique, mesuré, atteignable, réaliste, terminable. Hein? D'être spécifique dans les choses que nous allons faire, mesurer un peu ce qu'on peut faire, rester dans ce qu'on pourrait faire, donc être réaliste dans le désir d'accomplir les choses et de fixer. Enfin, ça va terminer quelque part. Donc, je donne des exemples. Par exemple, je ne sais pas vos habitudes, je n'ai jamais parlé de ces choses avec vous, mais il est bien d'avoir une habitude pour la lecture de la Bible. Par exemple, un chapitre par jour. Certaines personnes ont un plan qui fait l'année, lire toute la Bible dans un an. Moi, je n'arrive jamais à faire toute la Bible dans un an. Donc, je n'essaie pas. Mais quelque chose de plus mesuré, atteignable, réaliste pour moi-même ou pour vous-même, et terminable. Donc, pour moi, je dirais un chapitre par jour. C'est pas beaucoup, hein? Mais au moins un chapitre par jour. Bon, on peut fixer 10 chapitres par jour. Mais quand on fait 8, on va dire, ah, j'ai pas arrivé. Et puis le lendemain, oh, j'ai fait que 9, et le lendemain, j'ai fait que 3. Et puis après, on a un grand manquement envers nos objectifs. Et c'est peut-être mieux d'avoir les petits objectifs qu'on va réaliser et on va être encouragé que de faire des grands projets que, enfin, on ne fait pas du tout. OK? Donc, quelque chose, un minimum, par exemple, de lire un chapitre par jour. Ou peut-être, si vous le faites déjà, il ne faut pas diminuer, hein, je ne dis pas ça. Si vous faites déjà 4 chapitres par jour, bon, restez là et voir d'autres choses à ajouter à votre vie. Hein. Donc, par exemple, un verset par semaine à mémoriser ou un verset par mois à mémoriser, mais quelque chose que vous vous établissez devant Dieu de vouloir faire en tant que projet pour le proche avenir. Quelque chose que vous pouvez faire. Peut-être couper un péché ou une mauvaise habitude. On a tous des choses qu'on pourrait se débarrasser, que ce soit dans le domaine des péchés ou des mauvaises habitudes. Moi, je vais perdre quelques poids. Là, c'est mon projet pour cette année de perdre au moins 12 kilos. On verra. Oui. On va essayer au moins. Hein? Donc ça, c'est un de mes projets. Ou peut-être commencer à développer, je pense que c'est un talent, on dit un talent, donc à commencer à développer un nouveau talent. Il y a plein de choses que vous pourrez faire. Hein? Si vous réussissez, donnez gloire à Dieu. Et si vous ne réussissez pas, ou si vous tombez, ou si vous vous trouvez trop chargé, vous ne pouvez pas le faire, donc vous vous sentez coupable ou quelque chose, il faut vous remettre debout et vous remettre en route. Il ne faut pas vous plaigner ou vous pleurer de ce qui n'a pas eu lieu, mais simplement reprendre la route. Hein? Ce n'est pas des questions d'enfer et du ciel. C'est des questions de vie pratique. OK? Donc, je veux lire dans 2 Pierre. 1, versets 10 à 15. 2 Pierre, 1, versets 10 C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne brancherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Voilà pourquoi je prends soin de vous rappeler ces choses. Bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par les avertissements, car je sais que je la quitterai, donc il quittera sa propre tente, il va mourir un jour, je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Donc, là, il est en train de parler de la préparation, l'effort que nous mettons dans notre propre vie chrétienne, dans le sens de prière, de lecture de la parole, de la méditation, de la mémorisation, toutes les choses qui entre dans la formation de notre être spirituel. Pierre veut encourager les chrétiens de l'époque, donc nous aujourd'hui, à faire le mieux qu'on peut. Et lui dit, parce qu'un jour il ne sera plus là. Moi aussi, un jour je ne serai plus là. Hein? C'est le fait pour nous tous. Hein? C'est le cours de la nature. Mais après son départ, après mon départ, eh bien, on voudrait quand même que ceux qui restent soient des bons, des vrais, des capables chrétiens. Okay? Aussi, donc, je voulais lire dans 2 Timothée, 2 Timothée chapitre 2 et verset 21. 2 Timothée chapitre 2 et verset 21. Ça revient un peu au texte que Sidney a lu de la bonne semence, les deux chiens et nourrir l'un ou l'autre. Hein? Et donc, je prends hors de contexte, mais c'est un peu ce contexte-là qui est donné. Au verset 21, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, donc c'est de toutes les saletés dans la vie qu'on pourrait faire, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Et c'est ça que je veux encourager pour cette année, que chacun d'entre nous soit utile à notre maître, qu'on soit propre à toute bonne œuvre. C'est ça l'objectif. Une pratique dans notre vie quotidienne qui n'est pas salie par toutes les choses du monde, mais qui est mise à part pour l'utilité du Seigneur. Donc dans cet objectif, c'est pour cela que je parle de ce plan, ces objectifs qu'on pourrait avoir par jour ou par semaine ou par mois ou par l'année. Qu'est-ce que vous projetez? Comment voulez-vous progresser devant le Seigneur, bien sûr, dans votre vie? Par exemple, encore quelques exemples, vous pouvez décider, je vais prier pour telle personne, ou pour l'Église, ou pour nos antennes. Hein? Vous pouvez décider, je vais faire ça comme ministère. Je vais prier pour telle ou telle chose, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, etc. Vous pouvez fixer à inviter quelqu'un une fois, ou inviter 5 personnes, etc. C'est à vous de voir, parce que c'est votre vie, et vous connaissez quelles sont vos limites, etc. Mais quand on parle des projets, il faut voir vos limites, et puis un peu plus. Voir ce que Dieu peut faire au-delà de vos limites. Partager avec quelqu'un, parler de l'Évangile, visiter quelqu'un. Il y a plein de monde qui aimerait bien être visité. Je vous dis, cette dame, j'ai parlé de cette dame en Alaska, elle aimera bien être visitée. Hein? Donc, il y a plein de gens qu'on peut visiter, mais il faut faire les démarches. Et ça, ce n'est pas facile. Donc, c'est pour ça que j'ai dit les objectifs, les projets. Je vais visiter une personne par mois. Ça peut être la même personne chaque fois. Ou peut-être une personne cette année. Ça dépend de votre personnalité. Si vous ne visitez jamais personne, peut-être une personne pour l'année, c'est bien. Hein? Mais à vous de voir. Parlez avec quelqu'un. Il y a plein de choses que vous pouvez projeter à faire grâce à Dieu. OK? J'ai lu deux ou trois fois cette année des livres qui parlaient des alcooliques et des alcooliques anonymes. Et donc, on voit chez eux qu'on se regroupe et quand on prend la parole, on confesse. Je suis alcoolique. D'après ce que j'ai lu, hein, je ne suis pas allé dans les réunions. C'est alcoolique anonyme. Je suis alcoolique. Et donc, ils ont développé tout un système pour combattre un seul péché. Ils ne s'intéressent pas avec le reste. C'est un seul péché, l'alcoolisme. Okay? La réalité, c'est qu'il y a bien davantage de péchés, n'est-ce pas? Pour nous, on dirait, si on était dans ce contexte, on dirait, je suis pécheur. Et ça, c'est vrai pour nous tous, parce qu'on est tous pécheurs. On dirait, on ne pourra pas dire d'ailleurs, pécheur anonyme. Parce qu'on sait, vous regardez quelqu'un, vous savez que cette personne est pécheur. Il n'y a pas besoin d'être anonyme. Hein? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, nous avons honte de nos péchés. On ne va pas dire, ah oui, j'ai fait ce péché-là. On dirait, oh, j'ai fait ce péché-là. Hein? C'est normal d'avoir honte. On ne parle plus de ces saletés qu'on aura pu faire dans le passé. Mais quand même, nous glorifions dans notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Et nous réjouissons dans cet avenir permanent, éternel, céleste, qui nous a promis. Donc on a parlé déjà des versets 14 et 18 qui parlent de l'amour de Dieu et de la réconciliation que Dieu, par son amour, a pour vous, pour nous tous. Alors, comme les alcooliques anonymes, nous devons aussi confesser. Hein? Nous devons confesser nos péchés les uns aux autres et nous devons nous pardonner réciproquement. Donc, dans les alcooliques anonymes, on n'a pas l'œil « Ah, mais toi, tu es alcoolique !» Parce qu'ils sont tous alcooliques. C'est pas la peine. Eh ben, ou, nous aussi, c'est pas à dire « Ben voilà, tu es pécheur !» Parce qu'on est tous pécheurs. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a rien qui nous choque. On est pécheurs. Si on nourrit la chair, qu'est-ce qu'on va faire? On va pécher. C'est pas bien. On n'a pas le droit à pécher. Et pourtant, on arrive bien des fois à le faire. Alors, il y en a qui disent, « Ah, mais ces choses-là n'est pas tellement péché. C'est vrai que j'ai dit une mauvaise chose à propos d'une personne, mais ce n'est pas vraiment calomnier la personne. » Si. On ne peut pas changer le vocabulaire pour que nous soyons parfaits. Hein? Il y a beaucoup de chrétiens qui font ça. Ils diminuent la sainteté de Dieu et ils augmentent la sainteté de l'homme et disent, « Ah, ben voilà, je suis comme Dieu maintenant. » Non. Dieu, il est absolument sans péché à 100% et nous sommes absolument pourris. Peut-être on ne manifeste pas toute notre pourriture, hein? Heureusement. Mais on reste dans la chair. Et on doit, comme on a lu tout à l'heure, nourrir l'esprit qui est en nous. Oui, l'Église est une communion de frères et de sœurs. Pardonné en Jésus-Christ et ayant reçu la vie nouvelle. Oui, l'Église est une école de disciples. Et oui, l'Église est un hôpital, un genre de clinique de rééducation. C'est pour cela qu'il parle de nouveauté de vie. Changement constant vers la volonté de Dieu. Alors, contrairement aux alcooliques anonymes, nous avons une source intérieure. Le Saint-Esprit qui nous autorise cette nouvelle vie, qui nous transforme, maintenant qu'on marche avec lui, bien sûr. Dans les alcooliques anonymes, on fait mention d'un être supérieur, mais ce n'est pas d'office le Dieu de la Bible, c'est quelconque. Puissance extérieure à soi-même, qu'on y croit ou n'y croit pas, mais il faut le reconnaître. Mais nous, ce n'est pas une source à l'extérieur de nous-mêmes, ce n'est pas une puissance extérieure, c'est une force intérieure. Le Saint-Esprit qui est mis dans notre cœur, qui nous lie à Dieu dans les lieux célestes, qui nous autorise, dans le bon sens de ce mot-là, qui nous donne l'énergie nécessaire pour être transformé. Et à vrai dire, tout le Nouveau Testament sert à nous montrer la vie nouvelle. C'est pour cela que Dieu nous l'a donné, le Nouveau Testament. On faut être réaliste aussi. Dans la vie, il reste beaucoup de tristesse, beaucoup de pièges, beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, beaucoup de collègues, etc. Hein? Ça, c'est la réalité de la vie. Okay? Et Dieu n'a jamais dit que la vie allait être facile. Parfait pour nous. Non, on est dans la vraie vie, mais on voudrait confronter la vie en tant que chrétien. Il est bien d'avoir un... Attention, je ne vais pas dire menteur, mais un mentor. Un mentor, un guide, un aide pour nous encourager, pour nous restaurer quand on tombe. Il y a déjà, dans beaucoup d'églises, on a trouvé utile de choisir un partenaire à qui on rendre compte mutuellement. Donc, deux dames qui se parlent, deux hommes qui se parlent, deux jeunes qui se parlent. Et donc, c'est privé entre eux deux, n'est-ce pas? Mais de aider l'un et l'autre quand on est confronté, parce que c'est la réalité, on est confronté avec toutes ces choses, toutes ces déceptions et les tentations et les choses. Et Dieu n'a pas voulu qu'on reste toute seule. Déjà, il a mis en nous le Saint-Esprit, mais il nous a donné les frères et les sœurs pour nous aider à combattre, à rester debout. Donc, je ne sais pas si ça vous intéresse de vous confier les uns aux autres. C'est normal, hein? Confessez-vous les uns les autres, aux autres. En Jacques, il dit ça. Mais au minimum, il faut prier les uns pour les autres. Et même dans ce sens de prier les uns pour les autres, je pense, comme j'ai mentionné tout à l'heure, que ce sera bien d'avoir un annuaire. Un annuaire parmi nous, ce n'est pas pour le public, hein, mais pour ceux qui font partie de notre communauté, où on peut avoir nos noms, nos adresses, nos téléphones, nos courriers électroniques, pour pouvoir communiquer entre nous et déjà connaître les noms les uns des autres. On n'est pas une méga église, mais ça ne veut pas dire non plus qu'en petite église, on connaît le nom de tout le monde non plus. Donc ça, c'est un sujet qu'on pourrait aussi aborder. Bon, voilà. 2018 devant nous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous encourage à faire quelques projets, quelques petits projets que vous pouvez faire, réaliser, et si vous trébuchez, que vous pouvez reprendre en route pour continuer. Et puis peut-être l'année prochaine, vous pouvez rajouter à votre projet que vous avez commencé en 2018.